et bienvenue à l'émission Les Voitures du 7 mars 2019. C'est Marie Lalande qui vous parle. Avec moi en studio, l'équipe du jeudi matin, Monique.
Bonjour Leroy. Marie.
Bonjour. Et Yvan Deslauriers.
Bonjour Marie.
Pourquoi est-il?
Non, j'ai pensé à une chanson.
Puis
j'ai,
bonjour j'ai presque... Marie.
Oui, c'est, je l'ai presque chantée.
La chanson de ma vie. Et Jean-François Roy.
Bonjour les amis.
Bonjour.
Je suis toujours content de vous retrouver.
Nous donc.
Une chose qui... les amis de passe-partout.
Bonjour les amis.
Ben, c'est de circonstance.
Et oui,
une chose qui me plaît beaucoup, c'est qu'à chaque semaine, vous changez le rôle de l'animation.
Ah, oui.
C'est amusant.
Nous rotatons.
Oui, vous rotationnez.
Oui. Alors, chers collaborateurs, qu'est-ce que vous nous présentez ce matin?
Alors, je pense que c'est vraiment de mise. Choisir entre gratification immédiate ou bénéfice à long terme.
Ah oui.
Hein, c'est une situation qui demande la maîtrise de soi.
Et pourquoi choisir?
Mais pour certaines personnes, ce contrôle se fait mieux que d'autres, mm-hmm. semble-t-il. Alors, est-ce qu'il est possible d'améliorer ce contrôle? Et ben voilà, c'est de ça que je vais vous parler. Et c'est un article qui est en deux parties.
OK? Mm-hmm. Donc, deux parties dans la première partie.
Excellent. Voilà.
Yvan, toi?
Moi, mes interventions de ce matin, autant en première qu'en deuxième partie, c'est le sport qui change des vies ou changer les vies par le sport, c'est comme vous voulez.
On va réfléchir à ça.
Mais il y a du changement.
Il y a du changement, puis il y a du sport.
Et de mon côté, moi, je vous présente, c'est la semaine de relâche dans la région montréalaise, alors je vous présente une sélection de sorties, encore une fois, et d'activités, mais cette fois-ci qu'on peut faire à l'intérieur, avec les enfants, la famille.
Quand il fait frais dehors.
Voilà, c'est parti! Yvan, on commence avec toi.
Oui, je commence par un texte d'opinion de M. Fabrice Ville. Je vous en ai déjà parlé. M. Ville est coach et entrepreneur social. Il est aussi cofondateur et président d'un organisme qui s'appelle Pour Trois Points. C'est parce qu'il coach du basketball, puis un panier de trois points, c'est quelque chose d'important.
Ah, OK, c'est pas trois points de suspension.
Ça pourrait. C'était dans la presse du 3 mars, ça s'appelle « Le sport, pourquoi? » Il est temps d'incarner ce que le sport cache de plus beau, parce que le sport en prend pour son rhume ces jours-ci. Le 10 février, une enquête de CBC News et CBC Sports a révélé que dans les 20 dernières années, 340 entraîneurs du sport amateur au Canada avaient été accusés d'un délit sexuel. C'est un entraîneur toutes les trois semaines.
Ah mon Dieu!
Là, c'est assez troublant.
Puis, la semaine dernière, les insultes dirigées à l'endroit du joueur de hockey Jonathan Ismaël Diaby et de sa famille, babouin, nègre, live dans un aréna de Saint-Jérôme. Toutefois, une question fondamentale demeure. Quelle est la raison d'être du sport? Parce qu'aucune mesure de redressement ne sera suffisante si elle n'est pas ancrée dans un sens profond. Dans son essence, le sport contribue au développement des capacités des personnes. Il favorise l'émergence de l'esprit citoyen. Il permet de tisser de meilleures communautés et sociétés. Le tout est malheureusement méconnu. Pourtant, tout le monde connaît intuitivement la valeur du sport. L'île à mer, 1994. Jean-Luc Brassard a franchi la ligne d'arrivée en frappant le ciel avec son poing droit. Atlanta, 1996. Bruny Surin, lui, c'était les deux bras en l'air, avant même la ligne d'arrivée du 4x100 mètres.
Là, vous ne voyez pas, là, mais il y a une gestuelle
ici.
Oui,
il y a une mimerie.
Il y a un miroir.
Oui, c'est ça. Avant même la ligne d'arrivée du 4x100 mètres, victoire qui éveille des frissons. À l'occasion de ces événements rassembleurs, l'enfant que j'étais s'identifiait à un « nous » soudé. Malgré l'époque contemporaine au référendum, ce « nous » n'était ni fédéraliste ni souverainiste. Ce « nous » était multiple. D'ailleurs, vous avez remarqué que Surin n'a pas la même couleur de peau que Brassard, mais vous avez surtout vu la couleur de l'excellence. Le sport est l'école du travail d'équipe et du dépassement de soi. La meilleure pilule de motivation est la période des championnats où les ados les plus nonchalants se métamorphosent. Mmh. Nutrition saine, heures de sommeil, sans oublier l'exécution méticuleuse des stratégies, attention à vos oreilles ici, qui pourraient permettre de toucher à la bannière convoitée. On joue en 34 et on trappe côté faible, sauf après les paniers où on tombe en 44-41. Man on one sur le numéro 11. C'est toutes des stratégies en basketball.
C'est comme du chinois pour moi.
Oui, mais ça veut dire, pour les ados, là, c'est...
C'est significant.
Oui, oui, c'est très clair. Résultat, les athlètes goûtent à l'extase de la victoire ou versent les larmes de la défaite. Dans les deux cas, leur caractère est forgé pour la vie et à travers l'émotion des épreuves, les amitiés avec les coéquipiers aussi. Voilà un aperçu de la richesse sous-estimée du sport. Toutefois, chers sportifs, à accorder trop d'importance aux résultats, à raconter abondamment que la bannière de l'éthique sportive est réservée aux perdants, nous avons empêché notre société de saisir l'ampleur de ce que le sport peut offrir. Nous avons aussi banalisé des fléaux qui minent la sécurité physique et psychologique des athlètes. Nous sommes nombreux à souhaiter plus d'investissement en sport, mais encore faut-il le mériter. Oui, le sport a mauvaise presse, mais nous avons le pouvoir de changer le discours. À l'heure de nombreux championnats de fin de saison, particulièrement au hockey, rappelons-nous qu'il est de notre devoir d'incarner la raison d'être du sport. Agir en modèle, adopter des pratiques pédagogiques saines, fraterniser avec l'adversaire, prévenir et dénoncer toutes les violences. C'est de cette façon que le sport regagnera ses lettres de noblesse. Oh. C'était un texte d'opinion de Fabrice Ville, qui est président de l'organisme Pour Trois Points. Ça s'appelait « Le sport, pourquoi? » dans la presse du 3 mars.
Merci, Vin. C'est un texte de passion et d'espoir.
Oui, tout à fait.
On aime ça. Alors, Monique, allons parler de contrôle de soi.
De maîtrise de contrôle. Ben les deux, ouais. Contrôle ou maîtrise de soi. C'est un dossier qui a été réalisé par Elena Sender pour la revue Science et Avenir de décembre 2019. Et il s'intitule « Le contrôle de soi décrypté ». Alors, imaginons Michel qui s'est promis de perdre du poids. Mais, bon, il passe une journée stressante au travail. Il arrive à la maison, crac, et engloutit une barre de chocolat.
Histoire connue.
Histoire connue, on pourra en raconter beaucoup comme ça.
Oui.
Alors, chaque jour, on lutte...
Je ne sais pas de quoi vous parlez.
Chaque jour, on lutte avec plus ou moins de réussite contre les tentations en essayant de faire preuve de maîtrise de soi. Et après plus de 50 ans de recherche, la science commence à comprendre, à percer le mystère de ce combat intérieur. Alors, qu'est-ce que la maîtrise de soi? Ben, elle peut être définie comme la capacité à différer la recherche d'une gratification immédiate pour atteindre un objectif à long terme. Hein, ce n'est pas le bonbon tout de suite,
non,
en fait.
C'est ça. Hein? La capacité d'attendre.
D'attendre, c'est ça. Elle prend en compte donc les conséquences de nos actions, ce qui permet le raisonnement et la construction de stratégies dans le but d'obtenir un résultat lointain. En fait, plus lointain. Monsieur Brandon Turner de l'Université d'État de l'Ohio aux États-Unis nous dit que bon nombre des maux de la société sont liés à un manque de maîtrise de soi. On peut penser à l'obésité, on peut penser à la dépendance, à toutes sortes de matières,
de substances.
De substances, merci, c'est le mot qui est préférable. Le manque d'économie. Des dépenses donc outrageuses, toutes ces pulsions en fait. Et le premier qui s'est intéressé vraiment à ce domaine, c'est un monsieur qui s'appelle Walter Mitchell. Il était de l'Université de Stanford aux États-Unis. Je dis il était parce qu'il est décédé en septembre dernier à l'âge de 88 ans. Alors, dans les années 60, c'est lui qui a conçu le test dit du marshmallow, de la guimauve. Et ça a marqué, semble-t-il, les annales de la psychologie cognitive. Pardon. Alors, imaginez un enfant qui est isolé dans une pièce, installé dans une pièce qui est totalement vide, mais il a devant lui une guimauve. La consigne qui est donnée est très simple. S'il parvient à ne pas manger la friandise tout de suite, eh bien, il en obtiendra deux plus tard. Alors, qu'est-ce que se passe? Alors, semble-t-il que certains enfants se jettent sur la sucrerie à peine la porte fermée, et d'autres inventent toutes sortes de stratégies pour ne pas céder à la tentation. Alors, les mains devant les yeux, les mains derrière le dos, chantonner, et bon, vous pouvez imaginer toutes sortes de choses. Entre donc les années 68 et 74, il y a eu comme ça 550 enfants qui ont été mis à l'épreuve et qui ensuite ont été recontactés à tous les 10 ans pour raconter leur parcours de vie. Les questionnaires que ces enfants ont remplis lorsqu'ils ont atteint l'âge de 27 à 32 ans montrent que ceux qui ont patienté le plus longtemps devant la guimauve sans la manger persévéraient davantage dans leurs objectifs à long terme et les atteignaient plus souvent que les autres. Donc, ils s'adonnent moins aux drogues dures et poursuivent leurs études plus longtemps. Ils présentent même un indice de masse corporelle généralement beaucoup plus faible. Assez intéressant.
Oui.
Donc, que se passe-t-il dans la tête de celui ou de celle qui est confronté à la tentation? Semble-t-il que le cerveau serait alors le théâtre d'un duel entre deux systèmes, le système froid et le système chaud. En fait, j'aurais dû dire le chaud d'abord, qui est le système primitif, notre cerveau reptilien probablement, et le système qui cède instantanément aux sollicitations dès qu'une récompense immédiate se présente, ou le système froid, qui est situé dans la partie évolutivement la plus récente du cerveau humain et qui sous-pèse les choix, qui réfléchit aux conséquences, qui se souvient de l'objectif à long terme. Quand une tentation survient, donc les deux systèmes se mettent en balance, en opposition, et que le plus fort gagne. C'est assez... on n'imagine pas tout ce qui se passe dans notre cerveau, quoi. Alors... excusez-moi, alors j'arrive presque à la fin. Donc, d'après Michel, il y a une bonne nouvelle, c'est que la capacité cognitive de maîtrise de soi, self-control, peut s'entraîner. On peut se préparer à la tentation pour mieux y résister. En répétant, par exemple, une espèce de mantra. Mm-hmm. Si on me propose un chocolat, je répondrai que je préfère la pomme. Alors, on se répète ça dans sa tête.
Et on essaie d'y croire.
On essaie d'y croire, c'est ça. Mais on n'est pas con, on n'est pas en faveur d'un hyper-contrôle qui nous frustre à tout moment, mais plutôt des réglages qui sont plus fins pour assurer une bonne navigation tout au cours de notre vie. Alors voilà, c'était la première partie de cet article, de ce dossier d'Elena Sanders dans la revue Science et Avenir de décembre 2018.
Oui, et on reste là parce qu'on va voir la suite tout à l'heure.
Oui, c'est ça, après la chanson.
On a hâte.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie. C'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide et le néant. C'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tense, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine. Un reste de racine, c'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose. Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou. C'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte. C'est un peu rien du tout, un poisson, un geste. C'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend. C'est tout ce qui nous reste, c'est du bois. C'est un jour le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court, c'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée, c'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie. C'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de mars, dans ton cœur tout au fond, par peine, et on finit au camille, et on reste dit toc, et on poque sosie, par une pierre, chemin qui chemine, reste de racine.
Ben voilà, c'est une jolie mélodie que tout le monde aura sans doute reconnue. Elle est signée Georges Moustaki, Les eaux de mars, c'est sorti en 1973, tiré de l'album Déclaration. Mais Marie, tu as quelque chose à mettre en contexte, à expliquer sur cette chanson?
Ben écoute, c'est très, très égoïste, là. Je sais pas si vous avez partagé mon bonheur, mais c'est ma chanson préférée. Puis quand c'est la première semaine de mars, je m'organise toujours pour entendre cette chanson-là dans le plus de versions possibles, parce que vraiment, il y a eu plusieurs interprétations. Ça me rend heureuse. C'est plein d'espoir.
Mais c'était bonheur qu'on partage avec les auditeurs.
Ah, ça me dit oui, ça,
elle fait
oui.
du bien.
Oui, merci. Elle fait du bien. Merci, merci Jean-François. Alors Monique, on poursuit avec la maîtrise de soi.
Oui, et là, je vous donne des petits moyens, en fait, peut-être d'y arriver. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? La première chose, ben, il faut établir une routine. Car on dit que les personnes qui adoptent le meilleur contrôle alimentaire, par exemple, sont celles qui suivent une routine saine. Faire de l'exercice régulièrement, manger équilibré, bien dormir, programmer des activités à heure fixe, semble-t-il, a un effet, et c'est le meilleur moyen de s'y tenir. Parce que les automatismes qui sont créés font moins intervenir la volonté. Ce qui perturbe dans le cerveau le circuit chaud, toujours à l'affût d'une tentation, c'est les espèces de petites sorties de routine, en fait. Hein? Ensuite, il faut rendre son objectif attrayant. Pour se motiver sur un objectif à long terme, hein, c'est pas juste pour demain, là, il faut réchauffer notre objectif.
Le réchauffer.
Ben oui, pour le rendre, tu sais, dire « Ah, oh, c'est tellement le fun! »
Je m'imagine réchauffer la guimauve.
Mais non, pas la guimauve. Non, c'est ton objectif, là. Tu veux pas manger, pas manger la guimauve, là. Alors, c'est en évoquant, par exemple, des images mentales du futur agréable, non? Alors, l'un des ressorts de cette maîtrise de soi est cette capacité à se persuader que la récompense lointaine est proche. On peut s'imaginer brandissant une médaille ou en levant les bras en l'air, comme tu nous disais de le faire tout à l'heure, au moment où la tentation de ne pas aller à notre cours de sport, à notre entraînement, c'est ça, nous gagne. Ensuite, anticiper la tentation. Hein? Alors, les personnes qui atteignent leurs objectifs seraient celles qui rencontrent le moins de tentations sur leur chemin. Ah, on vit dans une bulle, quoi. Hein? Non, c'est pas vrai. Alors, il s'agit de configurer son environnement de manière à être moins exposé aux tentations. Si on souhaite perdre du poids, par exemple, ben, mieux vaut ne pas conserver un gros contenant de crème glacée dans le congélateur, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, on va craquer. Ensuite, il faut contrôler son intention. L'attention, hein, c'est la clé du contrôle de la vie mentale. Alors, comment l'améliorer? Il faut stabiliser l'objectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se demander ce que l'on cherche à faire dans les minutes qui suivent en visualisant le point d'arrivée. Mm-hmm. Et si l'attention est soudain captée par un perturbateur, ben, il faut vite se ramener sur l'objectif. Il y a toutes sortes de perturbateurs, oui. On le sait. Alors, c'est une...
Ou de perturbatrices,
ou même, ça peut être le numérique qui est un perturbateur et qui continuellement nous fait perdre notre objectif. Et assez particulier, le dernier, c'est entraîner sa mémoire de travail. Vous vous souvenez, il y a, je pense, 2 semaines, j'ai parlé des différentes mémoires et la mémoire du travail, était une. Pour rester focalisé sur son objectif, il faut avoir une bonne mémoire du travail ou de la mémoire à court terme qui permet de garder en tête son intention. Plus on exerce sa mémoire de travail, meilleurs sont les résultats, semble-t-il, au test de maîtrise de soi. Et pour comment faire ça? Bien, on s'entraîne par des exercices de mémorisation simples, des mots, des nombres, enfin, un poème même, en sont des exemples. Ensuite, changer sa perception. Changer sa perception de ce que l'on veut éviter. Si on doit, pour diminuer sa consommation de sucre, il est plus simple de le considérer comme un poison pour sa santé, ce qui permet d'y renoncer plus facilement. Si on dit « Ah, c'est bon le sucre, mais je ne peux pas en manger », ce n'est pas tout à fait changer sa perception.
Alors, c'est mieux de se dire que ce n'est pas bon pour nous, par exemple.
Voilà, exactement. Et... la dernière, jumeler activités plaisantes et déplaisantes. Alors, pour ceux qui préfèrent les séries télé au sport, ben jumeler les deux activités.
Faire du sport en écoutant une série télé?
Ben aller au gym en écoutant, par exemple, un roman ou une balado qui nous intéresse.
Qui a été enregistré par Vues et Voix, par exemple.
Ou un livre d'enfant décrit par Marie. C'est ce qu'on appelle les groupements de tentation. Temptation bundling, c'est ça, exactement. Et alors, il semblerait que ceux qui font ça, il y a 27 % de plus de résultats que les autres. Alors voilà, c'était les différents moyens que nous présentait Helena Sender de la revue Science et Avenir de décembre 2018 pour qu'on ait un meilleur contrôle de soi.
Fort utile, merci.
C'est la semaine de relâche, on veut profiter du congé malgré Dame Nature. Jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé cette semaine, mais au cas où. C'est un texte de Pierre-Marc Durivage que j'ai trouvé dans la presse du 2 mars. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? 3 régions qui sont proposées ici dans la région de Québec. Il y a le Mégaparc des Galeries de la Capitale.
Oui.
Inauguré le mois dernier, après 18 mois de travaux et 52 millions de dollars d'investissement, le tout nouveau Mégaparc des Galeries de la Capitale propose 18 attractions, dont 14 nouveautés, y compris une grande roue sans rayons traversée par des montagnes russes. Le lieu est en outre ceinturé par une patinoire, le plus grand sentier glacé intérieur en Amérique du Nord avec ses 750 pieds. Ça permet d'avoir un coup d'œil et d'ensemble sur cet impressionnant parc d'attractions auquel on a voulu donner des allures de fête foraine. Toutes les activités sont accessibles avec des points qu'on achète, 1,15 $ la pièce. Le prix des différentes attractions varie de 3,45 à 6,90.
C'est raisonnable.
C'est intéressant. Le scénario Zone morte, qui a remporté le titre de jeu d'évasion de l'année par Les Captivistes, un blog spécialisé en jeux d'évasion au Québec et en France, à double tour, ça s'appelle, a reçu le cadenas d'or pour les meilleures ambiances sonores, alors que ces décors sont considérés parmi les plus beaux au Québec. À noter qu'on parle ici de jeux d'évasion destinés aux 15 ans et plus. Le niveau de difficulté est plutôt relevé. Les plus jeunes doivent être accompagnés d'un adulte, mais les parcours ne sont pas recommandés aux enfants de moins de 10 ans. À Bromont, maintenant, il y a un centre d'escalade qui s'appelle Backbone. C'est situé à quelques minutes des pentes de ski de Bromont.
Le centre d'escalade de bloc Backbone propose 4800 pieds carrés d'espace d'entraînement et de jeux adaptés à tous les types de grimpeurs, du débutant au mordu d'escalade. L'ascension se fait sur des blocs installés au-dessus des surfaces rembourrées, si bien qu'on n'a pas besoin d'expérience ni d'équipement de sécurité, mis à part les chaussures qui sont offertes en location. Le centre vient par ailleurs d'inaugurer une nouvelle section de type roof, toit, une surface d'escalade horizontale. Et pour les parents qui voudraient patienter pendant que leur rejeton s'amuse à grimper un peu partout, Backbone propose un bar à espresso et smoothies ainsi qu'une sélection de bières de la microbrasserie Sutton Brewery. Il y a aussi le musée du chocolat, qui est une destination gourmande, reconnue pour ses copieux petits déjeuners. La confiserie Bromont vaut aussi le détour pour son petit musée du chocolat, qui nous renseigne non seulement sur l'histoire de cet aliment, mais aussi sur les méthodes qui permettent de transformer les fèves de cacao en chocolat. On peut y aller librement.
Oui.
On peut aussi réserver une visite en groupe aussi.
Mais il faut se contrôler.
Oui, tout à fait. À Mont-Tremblant, je vous suggère l'Aquaclub La Source, le centre d'entraînement complet situé dans le village touristique de Mont-Tremblant. L'Aquaclub La Source propose aussi plusieurs installations destinées aux enfants, une pataugeoire pour les tout-petits, un bassin principal dans lequel on peut sauter, que ce soit du haut d'un rocher artificiel ou d'une corde à grimper. Ça s'ajoute à une chute rafraîchissante, deux baignoires à remous, une à l'intérieur pour toute la famille et une autre à l'extérieur qui est réservée aux adultes. Il y a un forfait familial de 3 heures qui coûte 50 $. Alors, des suggestions d'activités intéressantes, si jamais il nous reste quelques jours là, durant la fin de semaine, je vous souhaite d'aller dans un de ces endroits et de vous amuser avec vos enfants.
Bien, nous, on est déjà allés aux Galeries de la Capitale quand les enfants étaient petits.
Oui.
D'après ta description, j'aimerais ça y retourner.
Oui, puis on a perdu une casquette cette fois-là.
Donc, d'ailleurs, on cherche des enfants, s'il vous plaît.
On cherche des enfants. On peut s'improviser, ça, c'est facile. Alors, un petit mot d'enfant, peut-être, avant d'aller à la pause. Warning, c'est, selon Emma, 6 ans et demi, c'est les lumières qui veulent dire que la voiture est cassée.
Ah, oh, c'est bon, ça.
C'est un peu bon, ça, d'ailleurs.
C'est pas mal, ça, oui. Alors, restez avec nous. On vous revient dans quelques minutes après la pause. Rebonjour, re-bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, partie 2. De quoi nous parlez-vous, Monique, en deuxième
partie?
Alors,
j'aurai le plaisir de vous parler de sommeil.
De sommeil?
Oui, les besoins minimums en matière de sommeil sont-ils les mêmes pour tous les individus?
Oh, ça, c'est une bonne question.
Mm-hmm. Est-ce que notre cerveau a vraiment besoin de 8 heures de sommeil par nuit?
Probablement pas.
Il y a 5 experts qui répondent à la question.
Puis on va commenter.
Yvan.
En première partie, M. Ville nous avait parlé de l'essence du sport. Alors moi, je vous raconte deux histoires qui parlent vraiment de l'essence du sport, de changer des vies grâce au sport ou utiliser le sport pour changer des vies. Là, c'est comme vous voulez.
Dans tous les sens.
Oui.
Et moi, je vous parle encore de la relâche. Mais cette fois-ci, je vous présente le point de vue d'un parent qui a l'air un tout petit peu dépassé. Voilà. Alors, Yvan, le sport peut changer des vies?
Oui.
De quel sport on parle d'abord?
Du basketball en fauteuil roulant.
OK.
D'ailleurs, c'est ça le titre, hein? Le basketball en fauteuil roulant pour changer des vies. Ça a été présenté par l'agence Sportcom dans le Journal de Montréal du 3 mars 2019. Je vous parle de Jérémy, 15 ans, et ses deux frères de 17 ans, Kevin et Jean-Charles, qui ne sont pas seulement liés par le sang, mais par une passion commune. Les aînés de la famille Giguère ont commencé le basketball en fauteuil roulant pour pratiquer un sport accessible à Jérémy, qui a le syndrome de Guillain-Barré. Mm. Le basketball en fauteuil roulant est un des rares sports adaptés permettant l'intégration inversée. Des personnes sans handicap peuvent pratiquer cette discipline jusqu'aux Jeux du Canada. Nous avons commencé le basket pour Jérémy aux Jeux du Québec il y a 4 ans. Nous cherchions un sport qu'il pouvait faire, a affirmé Jean-Charles, médaillé de bronze aux Jeux du Canada 2019 en basketball en fauteuil roulant. Le sport a d'ailleurs amélioré le climat à la maison entre les frères. Ça permet de nous aider et de se comprendre sans se parler. Mes frères m'aident aussi. Au début, je n'avais jamais le ballon dans les mains et je les aidais à traverser le terrain. Maintenant, je tire au panier, a dit Jérémy, qui rêve aux Jeux paralympiques. C'est bien que nous puissions jouer tous les trois ensemble, en famille. Nous aimons vraiment ce sport, a renchéri Kevin, dont l'équipe ne vise rien de moins que l'or pour le Centre du Québec. Pour leur mère et entraîneuse, Véronique Desrochers, les deuxièmes Jeux du Québec de ses fils ont une valeur particulière. J'aime vraiment les voir. Ça me rend assez émotive. Ce sont les derniers Jeux de mes deux plus vieux. C'est un beau sport d'inclusion. Ils se sentent à leur place. À 6 ans, Jérémy a contracté un virus qui, en 48 heures, l'a laissé complètement paralysé. Ses parents ont vu son état dépérir sous leurs yeux. Les médecins n'ont jamais été capables de me dire d'où ça vient. Tout ce qui était musculaire lâchait. Il est passé près de se faire mettre dans le coma et d'être intubé parce que même les poumons avaient de la difficulté à fonctionner.
Oh.
2 ans de physiothérapie et d'ergothérapie plus tard, le basketball en fauteuil roulant est entré dans la vie des giguères. Ses jambes ont récupéré 30 % de leur force et le haut du corps 50 %. Il est assez autonome pour faire ses choses de tous les jours, mais il ne peut pas marcher très longtemps. C'était chaotique au début de sa maladie. Il était tout le temps fâché et frustré. Maintenant, il voit des ouvertures. Ça met du positif dans sa vie, a conclu Mme Desrochers. C'était donc un exemple de sport qui peut changer des vies. C'est le basketball en fauteuil roulant pour changer des vies qui était présenté dans le Journal de Montréal du 3 mars 2019.
Une belle note d'espoir. Merci. Mm-hmm. Alors, Monique, est-ce qu'on a vraiment besoin, tout le monde, du même nombre d'heures de sommeil? C'est ça la question.
C'est ça la question. Alors, oui. C'est une question qui a été répondue sur le site web La Conversation. Je vous rappelle que c'est un agrégateur de recherches qui ont lieu dans différentes universités du Canada et qu'il y a des conversations dans tous les pays du monde, en fait. Et ça a été publié le 28 février 2019 et rédigé par Alexandra Hansen et Lionel Cavicchioli. Le mantra 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos dicte généralement le quotidien d'un grand nombre d'entre nous. Si on en croit la sagesse populaire, nous aurions besoin de 8 heures de sommeil par nuit. Cependant, certaines personnes nous jurent qu'elles ont besoin de dormir davantage, tandis que d'autres, surtout des gens très occupés, on peut penser aux politiciens, aux hommes d'affaires, etc., affirment que 4 ou 5 heures leur suffisent. Donc, on a, comme je vous le disais, on a demandé à 5 experts ce qu'il en est, et les 5 ont répondu non.
Ah!
D'accord. Alors, je vais vous donner le verdict de chacun d'entre eux. La première est Chelsea Rochebeb, qui est neuroscientifique. Elle nous dit que le sommeil est absolument crucial et qu'en être privé de façon prolongée a vraiment de nombreux effets néfastes sur notre santé et, à plus long terme, sur la durée de vie. Cela s'explique par le fait que le sommeil permet d'assurer nombreuses fonctions essentielles à la maintenance et à la régénérescence du cerveau et de l'organisme. On en a déjà parlé il y a quelques semaines, vous vous souvenez? Alors, bien que les êtres humains aient besoin en moyenne de 8 heures de sommeil chaque nuit, donc c'est vraiment la moyenne, là, le temps exact qu'il faut pour accomplir ces fonctions réalisées pendant que l'on dort est fortement dicté par les gènes qui diffèrent donc d'un individu à l'autre. Certaines personnes, les petits dormeurs, n'ont besoin que de 7 heures de repos, tandis que d'autres, qu'on pourrait qualifier de gros dormeurs, ont besoin d'au moins 9 heures. Contrairement à la croyance populaire pour lesquelles dormir moins de 6 heures par nuit est suffisant, c'est extrêmement rare. Ils sont extrêmement rares. Ceux qui affirment être dans ce cas presque sont toujours en situation de manque chronique de sommeil.
Et ont besoin d'une sieste.
Probablement. L'exception, en fait, on nous dit que l'exception à cette règle concerne les personnes qui possèdent un variant génétique permettant à leur cerveau de fonctionner plus efficacement que les autres, même lorsqu'ils dorment moins de 6 heures. Et je le répète, ce gène est extrêmement rare, très peu de personnes le possèdent. Il est donc préférable de laisser notre cerveau nous dicter la quantité de sommeil dont on a besoin plutôt que de croire qu'on peut, s'en sortir en dormant moins de 7 à 9 heures par nuit en moyenne. Crystal Grant, qui, elle, est experte du sommeil, nous dit que la recherche a montré qu'une bonne façon de déterminer la quantité de sommeil dont on a besoin est de porter une attention particulière à la façon dont on se sent au cours de la journée. Notre humeur changeante, peut-être, notre niveau d'énergie qui descend, notre état de santé général. Si on a sommeil ou si on a besoin d'un supplément de caféine, il se peut qu'il soit nécessaire d'augmenter notre quantité de sommeil. Je regarde Yvan parce que semble-t-il qu'il fait des siestes.
Il fait partie des petits dormeurs.
Ah, d'accord. Il est important de ne pas rogner sur la durée de repos. Lorsqu'on prévoit bien son planning, il faut faire de la qualité de notre sommeil une priorité. Gorica Mitic, experte aussi du sommeil, relate des études qui indiquent que nos besoins en sommeil diminuent également avec l'âge. Les nouveau-nés peuvent avoir besoin de 12 à 18 heures de sommeil, alors que certains adultes plus âgés peuvent n'avoir besoin que de 6 à 7 heures de sommeil.
Voilà.
Hayley Meskin, qui est psychologue, ajoute que le dicton selon lequel tout le monde a besoin de 8 heures de sommeil découle de la révolution industrielle. C'est intéressant, mais qu'en réalité, la génétique, l'âge, l'état de santé, les facteurs environnementaux et comportementaux déterminent véritablement la quantité de sommeil nécessaire. L'organisme de certaines personnes sont capables de fonctionner avec moins de 6 heures et certains individus peuvent même souffrir d'insomnie s'ils dorment trop d'heures. Alors, en terminant, Stéphanie Santofanti, qui est psychologue, nous dit que... elle nous invite en fait à considérer la quantité de sommeil qu'il faut à notre corps pour fonctionner au mieux de nos capacités et que cela peut changer en fonction des antécédents de sommeil ou en fait de ce qui s'est passé la veille ou pendant une certaine période où on a eu des privations de sommeil, de maladies ou de stress élevé. On peut avoir besoin à ce moment-là de plus de sommeil et de ne pas s'en priver. Il est donc important de déterminer la durée du sommeil qui fonctionne le mieux pour nous et d'y accorder la priorité afin de prolonger notre vie.
Et de vérifier, donc, en fin de semaine, l'heure qu'il sera, parce qu'on perd une heure en fin de semaine.
Exactement. Exactement. C'était merci, donc Monique. Un article du 28 février 2019 dans le site web La Conversation.
Merci. Alors, Yvan, une autre expérience qui nous prouve que le sport change les vies.
Oui, Ça s'intitule « À 11-0, Jacob Fournier a eu une bonne idée ». C'est sous la plume d'Alexandre Pratt dans la presse du 5 mars 2019. Des enfants, un problème, une solution ingénieuse, une amitié improbable. Est-ce le synopsis d'un nouveau film de la série « Compte pour tous » ?
On le penserait.
Et non. C'est une histoire réelle, celle d'une défaite de 11-0.
Aïe.
La meilleure game de l'année, pour citer Jacob Fournier, qui jouait avec les perdants.
Ah bon? Tout est relatif,
oui.
L'adolescent de 14 ans est défenseur dans le Bantam 2B pour les Bulldogs du Roussillon. Jeudi dernier, son équipe.
Quel nom? Les Bulldogs du Roussillon.
Oh mon Dieu.
Il semble que ça ne va pas ensemble. Moi, Roussillon, je pense à 20.
J'ai plein de commentaires, mais je vais les garder.
Oh, excusez-moi, Yvan.
Jeudi dernier, son équipe affrontait les Grands-Ducs du Richelieu à Boucherville. Un duel très inégal. Les Grands-Ducs ont gagné 2 tournois cet hiver. Les Bulldogs, 2 matchs dans toute la saison. C'est vite devenu un pointage de football. Vers la fin de la deuxième période, même sans pousser, les Grands-Ducs menaient 9-0. Martin Gingras, l'entraîneur des Bulldogs, a discuté avec l'arbitre. Il voulait savoir comment l'officiel voyait la suite des choses. L'arbitre m'a répondu « À 10-0, après 2 périodes, j'arrête le match. » Les joueurs l'ont entendu. Ils n'étaient pas contents. Ils me disaient, puis là on parle des perdants, là.
Oui.
Ils me disaient « On est venu ici pour jouer au hockey, on va jouer au hockey. » 2 minutes plus tard, c'était 11-0. L'arbitre a mis fin à la partie. Les Grands-Ducs ont célébré avec raison. Cette victoire leur permettait de remporter le championnat de la Ligue. À une centaine de pieds d'eux, les Bulldogs restèrent debout au cercle de mise au jeu. Les autres, ils voulaient jouer. Mm. Ils ne voulaient pas quitter la glace. L'arbitre a dû insister pour que tout le monde retourne au vestiaire. Dans le corridor, les Bulldogs ont croisé le gouverneur des Grands-Ducs. Le gouverneur, c'est celui qui s'occupe de la gestion de l'aréna. Un joueur a souligné qu'il restait encore 45 minutes à la réservation de la glace. Le gouverneur a acquiescé. Il a permis aux jeunes des deux équipes de retourner s'entraîner sur la patinoire. Chaque formation occupait une moitié de la glace. Le numéro 85 des Bulldogs, Jacob Fournier, traînait au centre de la patinoire. Un de mes coéquipiers m'a lancé à la blague « T'es pas game de mettre ton bâton au milieu ». Quand on joue dehors dans une glace, pour faire des équipes, tout le monde met son bâton dans le milieu.
Ah, puis c'est comme ça qu'on fait.
Puis là, il y a quelqu'un qui se met à genoux puis qui tire un bâton à gauche, à droite.
Ah, okay.
Puis là, tu vas jouer où est ton bâton.
Ouais. Ah, d'accord. Wow.
Voilà. J'ai regardé le capitaine des Grands-Ducs. Je lui faisais des signes. Je voulais qu'il mette son bâton au milieu. Il n'avait pas l'air sûr, mais je voyais qu'il trouvait ça drôle. Alors, j'ai frappé sur la glace pour attirer l'attention des autres. J'ai déposé mon bâton au centre. Je me suis dit, au pire, ça ne fonctionnera pas. Je reprendrai mon bâton. Le capitaine des Grands-Ducs a suivi, puis tous les autres joueurs. Jacob Fournier s'est mis à genoux pour séparer les bâtons, comme si c'était un match amical au parc. La mère de Jacob, Marie-France Julien, était émue. Les parents ont s'y mis à applaudir le geste. C'était super beau.
Ben, je suis moi-même émue.
Mm-hmm. Oui, hein?
Oui, oui.
Les joueurs ont tout pris en main. Ils ont formé 2 équipes, les Blancs et les Rouges. Jacob Fournier s'est retrouvé avec le chandail blanc de Charles Dallaire des Grands-Ducs. Les garçons ont joué une 40aine de minutes. Pas d'arbitre, pas de marqueur, pas d'entraîneur, pas d'adulte. En fait, comme dans Charlie Brown, du gros plaisir.
Oh, wow!
Ils avaient la glace jusqu'à 20h05. L'heure venue, personne n'a osé mettre fin à leur match. Finalement, à 20h20, 15 minutes plus tard, un père est allé sonner la cloche. Les joueurs étaient exténués, mais ô combien heureux. En sortant de la patinoire, Jacob Fournier a retrouvé sa mère. « Maman, c'était le meilleur match de ma vie! » Mais revenons à l'idée de Jacob Fournier, celle de mettre les bâtons au milieu de la glace pour refaire les équipes après un écart démesuré. Au niveau récréatif, c'est probablement la meilleure idée. La victoire compte, la défaite aussi, mais les inégalités tombent, l'humiliation est oubliée, les enfants se développent, le plaisir de jouer revient. Surtout, de nouvelles amitiés naissent. Jeudi soir, quand Jacob est revenu à la maison, son téléphone s'est mis à sonner, comme s'il avait gagné aux machines à sous du casino. Ça faisait « ding, 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 ding », raconte sa mère. Les garçons des deux équipes s'échangeaient leurs coordonnées dans une conversation sur Instagram. Depuis, des Grands-Ducs et des Bulldogs font équipe ensemble au jeu vidéo Fortnite. Une amitié improbable née de la plus belle défaite de 11-0 de l'histoire du hockey. Et... C'était à 11-0, Jacob Fournier a eu une bonne idée d'Alexandre Pratt dans la presse du 5 mars.
Yvan, dites-moi, ils ont quel âge, ces enfants?
13 ans.
14 ans.
13-14.
13-14.
Et là, okay. Où le conte pour tous devient la réalité.
Tout à fait.
Oh, merci.
Oh, c'est super.
Il faut marcher, il y a tant à faire. Il faut rouler, m'acharner, 100 fois tourner, biner la terre. Il faut tenir, il faut bâtir sur l'inconnu. Parier sa chemise qu'on gagnera au risque de finir tout nu. Les autres peuvent penser le contraire. Il faut rouler, s'acharner, 100 fois tourner. Il y a tant à faire, et ce n'est pas ridicule. C'est comme si c'était facile, s'immiscer dans la lumière d'une longue nuit. Puis je le retrouve tôt ou tard dans le magistral de l'univers. Il faut tisser, il y a tant à faire. Et ce n'est pas ridicule. C'est comme si c'était facile. S'immiscer dans la lumière d'une longue nuit.
Jamais dit aussi vrai, il y a tant à faire.
C'est tellement.
C'était Daniel Bélanger qui chantait cette chanson tirée de son dernier album sorti en 2016, Paloma.
Merci Jean-François. Alors, je vous invite à repenser la relâche. C'est le titre du billet de Léa Strelitzky, qui est humoriste et chroniqueuse invitée dans la presse. Et on a publié ce texte le 2 mars.
As-tu des enfants? Hein?
Oui. Okay.
Mais oui, rappelons-nous ben oui, les cadeaux de Noël.
Oui, alors, l'horreur. Ça commence par... Oh, il y a une publicité avec des enfants qui glissent à travers des tubes multicolores. Ça veut dire que la relâche s'en vient. Bon, qu'est-ce qu'on va faire à la relâche? J'ai des images de toutes nos vacances qui me viennent en tête. Quand ça commence, tu te dis... Yay! On va être avec les petits et on va faire des muffins et on va regarder des films en famille collés sous les couvertes. Et finalement, tu passes une semaine à t'obstiner que oui, t'as eu assez d'écran, va faire autre chose, joue avec tes Legos. Comment ça? Tu trouves ça plate? Donc, je peux les donner, tous tes jouets? Oh non, finalement, tu les aimes. C'est pas facile occuper les petits en vacances. C'est pas facile les occuper la fin de semaine non plus. Et la relâche me regarde avec des gros yeux. Fait que, Strelitzky, y est où ton tableau Pinterest avec les bricolages que tu vas leur faire avec des rouleaux de papier de toilette vide, puis que finalement tu vas juste crier qu'ils ont mis des paillettes partout et que c'est pas comme ça qu'on utilise la colle chaude? Oui, c'est beau, on a prévu quelque chose. On a réservé dans un hôtel où il y a justement des tubes colorés dans lesquels ils vont glisser et on sera les meilleurs parents du monde juste parce qu'ils ont bu du chocolat chaud et mangé du popcorn. C'est pas si compliqué, les amuser, il faut juste un peu d'imagination et surtout de l'énergie. C'est là qu'est le problème. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils en ont plus que nous. Faut dire qu'ils prennent toute la nôtre, ils peuvent bien avoir des réserves. Alors oui, on va faire ce que les milliers d'autres familles québécoises, on va faire ce que font les milliers d'autres familles québécoises en même temps. On va se retrouver sur les mêmes pans de ski, on va se baigner dans les mêmes piscines d'hôtel en espérant qu'aucune couche de piscine ne lâche. Quel mensonge, les couches aquatiques, ça fait juste se remplir d'eau puis voir que ça filtre quoi que ce soit. Fermez la parenthèse. Et on va les regarder se faire des amis instantanés qu'ils ne reverront plus jamais dans 3 jours. Ainsi va la relâche, les vacances de la construction de la famille. À ce sujet, je trouve que notre système de vacances est complètement pourri. Je trouve ça nul qu'on nous éparpille des milliers de journées pédagogiques dans le calendrier scolaire, comme ma petite échapperait une bouteille de brillant, puis qu'on nous squeeze un pauvre 7 jours de vacances toute la province en même temps. Oui, oui, je sais, il y a des ondes, mais tout de même, ça marche tout croche. Pourquoi vous ne collez pas toutes les journées pédago en bloc? Pourquoi vous ne nous donnez pas plus de vacances scolaires que ça? Je comprends que les journées pédago sont souvent pour les profs et très, très loin de moi l'idée de leur nuire, puisque mon respect pour eux est infini. Mais il n'y aurait pas moyen de réduire le nombre de journées pédagogiques éparpillées et nous donner genre une autre semaine de relâche à l'automne? Ou bien imaginez 2 semaines de suite. Il me semble que ça serait mieux pour la santé mentale. Puis vous aimez ça, la santé mentale? Je vous ai vu partager le hashtag de la grosse compagnie de téléphone. Là, les journées pédagogiques arrivent comme des cheveux sur la soupe. On peut vraiment pas planifier de vacances avec ça. On les envoie au service de garde, qui coûte un bras. Souvent, on peut pas les envoyer aux sorties prévues parce qu'à la longue, ça coûte trop cher. C'est pas pratique. J'aimerais ça qu'on soit une province qui est encore meilleure pour les familles. Monsieur Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, quand vous aurez fini de patcher les toits des écoles et de trouver les milliers de locaux nécessaires à ce projet plus ou moins primordial des maternelles 4 ans, pourriez-vous aussi nous organiser un calendrier scolaire moderne et mieux pensé? On est beaucoup trop nombreux à faire la file devant les tubes colorés. Moi, je remercie Léa Strelitzky. Je voudrais m'asseoir avec elle puis jaser de... le bien fondé des journées pédagogiques pour les profs, là. Mais je comprends son désarroi de parents. Alors, quelques brèves avant de se quitter,
oui.
Yvan.
Alors, les salons de la course à pied de Montréal et de Québec accueillent les triathloniens à bras ouverts pour leur 4e édition en ajoutant un volet consacré officiellement à cette discipline en expansion. Selon les organisateurs, le triathlon a vu son nombre d'adeptes exploser de près de 40% depuis 2015, ça fait pas longtemps. Avec comme nouvel ambassadeur l'humoriste Maxime Martin, lui-même triathlonien, le Salon de la course à pied et du triathlon de Montréal s'ouvre demain au Palais des Congrès pour tout le week-end, alors que son pendant de Québec se déroulera les 13 et 14 avril au PEPS de l'Université Laval.
Merci beaucoup. Monique?
Oui, alors une brève qui concerne en fait les gros consommateurs de produits bio. Semble-t-il qu'ils auraient un risque réduit de 76 % de développer un lymphome, cancer des cellules immunitaires, et pour les femmes ménopausées, un risque moins élevé de 34 % de contacter un cancer du sein. Le lien n'est pas significatif pour les autres cancers.
OK, mais celui-ci est inquiétant.
Bien, il est positif, en fait. C'est qu'il faut manger bio.
C'est ce qu'on nous dit. C'est ça qu'on nous dit.
Oui, on nous dit qu'il faut manger bio, ça baisse le risque de ces cancers-là.
Donc, dans ce sens-là, c'est pas inquiétant.
Oui, oui. Voilà.
Alors, moi, je vous présente Jessica Bertolacci, qui est assurément une cycliste. Elle recycle ses chambres à air en les intégrant dans sa création de bijoux. Elle est tombée amoureuse de la robustesse du matériau, de sa souplesse, de son aspect à la fois mat et lumineux, de son toucher et de sa légèreté. Et je vois sur le dernier Vélomag des boucles d'oreilles, ailes de papillon, qui sont tout à fait superbes, chère Marie.
Ah oui, j'aimerais ça, voir ça de plus près.
Oui, en chambre à air.
Oui, tout à fait. Monique,
une petite dernière? Oui, alors 2400 ans.
C'est le chiffre?
C'est l'âge de la plus vieille épave de bateau intacte. Elle gît, en fait, à 2000 mètres de fond dans la mer Noire. C'est un bateau de commerce grec qui a été repéré par l'expédition scientifique anglo-bulgare. Et elle comporte encore, imaginez, son mât et son gouvernail. Et c'est une découverte importante parce que ce type de bateau n'avait jamais jusqu'ici été observé que sur d'anciennes poteries.
Et un petit mot d'enfant pour terminer. Origine étrangère, selon Tran Tri, qui a 9 ans, c'est quand un enfant est à moitié vietnamien, à moitié anglais et moitié français. Faites le calcul. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Jean-François pour la mise en onde, les choix musicaux. Merci Yvan, merci Monique.
Merci Marie.
Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Hélène suit avec le quotidien.